J'adore, j'ai une fascination pour les moulmous.
Ah, en silicone ?
Ah, c'est gras, il n'y a plus d'espoir. Eh les amis, je sais pas si les gens le savent, mais la farine, faut la mettre d'un coup en fait.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants.
Ça coupe le gras comme ça avec l'acidité, j'adore.
Laurent Bariotte.
Ah, on en apprend des choses, hein. Amis de la table, bonjour, merci d'être là, hein. Fidèle au poste comme chaque samedi, nous sommes là, vous le savez, pour partager le meilleur du bon jusqu'à midi et demi. Alors ça s'est rafraîchi, hein. On va se réchauffer avec notre dossier spécial cuisson. Faut-il cuire les pâtes à gros bouillon ou à petite ébullition ? Pourquoi doit-on baisser la température du four à mi-cuisson d'une brioche ? Eh bien, on va mijoter tout ça. On va fêter aussi les 100 ans du restaurant de la mer Brasier à Lyon. Et puis, on va faire le tour de France des poitrines de cochon. Hein, en tout bien, tout honneur, soyez rassurés. Voici mes bons vivants du samedi. Elle poursuit sa cure chocolatée entamée pendant le week-end pascal. Elle est en forme. On l'appelle aujourd'hui Charlotte et la chocolaterie. C'est Charlotte Langrand du journal du dimanche. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bonjour Olivier.
Ça va bien Charlotte ?
Ça va très bien.
Ravi de vous retrouver.
Je me sens en forme.
Très en forme. Solidaire avec les vignerons, hein, vous le savez, qui luttent contre le froid dans les vignes. Il va nous réchauffer ce samedi avec ses accords mets vins. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, et je reviendrai sur cette semaine terrible qui laissera beaucoup, beaucoup de traces dans le vignoble français.
Année historique, presque, on peut dire, malheureusement.
Malheureusement.
Jean-Luc Petit-Renaud sera des nôtres tout à l'heure avec une surprise, vous entendrez. Et puis sur les coups de midi, moins le quart, nous allons recevoir notre invité, un de nos plus grands chefs, Guy Savoy sera des nôtres. Allez, à la soupe! Alors, question rituelle, hein. Quel est votre goût de la semaine, à la maison, en voiture, en écoutant le podcast sur europe1.fr ? Posez-vous la question. Charlotte, je vous la pose. Quel est votre goût
de
la semaine ?
Je vous réponds le cidre, hein, parce que le Salon Cidre Expo, donc c'était la première édition l'année dernière à Caen, a été annulé évidemment cette année, mais les organisateurs l'ont transformé en un salon connecté. Ça commence aujourd'hui, ça va durer 8 mois jusqu'au 31 décembre, avec beaucoup de conférences. Hein, on pourra en ligne connaître les différents labels de qualité, suivre la fabrication du verger à la cave du cidre. Et c'est en ligne sur cidreexpo.com pendant 8 mois. Donc allez-vous rassasier un petit peu.
Ça sent la pomme.
Ça sent la pomme, ça pétille.
Le beau travail de la fermentation, c'est passionnant.
Exactement.
Moi, j'adore ça, le cidre.
Vous saurez tout.
Olivier, votre goût de la semaine ?
Eh bien, écoutez, j'ai pensé à vous hier soir et je me suis dit que j'allais vous apporter un petit truc pour l'apéro, comme
ça. Sympa.
Un petit plat un peu canaille, un peu bistrot. Et je vous ai fait des maquereaux au vin blanc. Regardez. Mmh. Alors, c'est des maquereaux qui ont cuit rapidement dans un petit mélange vin blanc avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de jus de citron. Il y avait oignons émincés, carottes.
Oh, c'est bon,
et puis on laisse refroidir tout ça tranquillement. On sert ça le lendemain avec des copains, comme vous les amis.
Bravo.
Et ben voilà.
Du vrai maquereau que vous avez fait vous-même, pas une boîte que vous avez ouverte.
Non, non, du vrai maquereau. Puis on en trouve là en ce moment. Et c'est un poisson, rappelons-le, excellent pour la santé et pas cher du tout.
Bel équilibre entre le gras du maquereau, hein, c'est un poisson gras.
Et l'acidité, très important.
Et l'acidité, donc c'est l'équilibre parfait là. Avec votre citron, j'adore ça. Moi, ça me rappelle mon grand-père qui ouvrait des boîtes de maquereaux au vin blanc chez moi dans les Vosges, à la campagne. Ben, on vivait avec l'autonomie alimentaire du poulailler, du verger et de l'élevage. Et pour avoir du poisson, ben, il commandait des boîtes justement de maquereaux au vin blanc. Et j'adore ce goût. Ça se rapproche au goût de l'enfance qu'on demande souvent à nos invités.
Et alors, votre goût de la semaine ?
Oh, alors mon goût de la semaine, les amis, c'est je suis remonté là. Hein. C'est le goût de la bêtise, le goût de la connerie, même on peut dire. Hein. On a tous été choqués par ces dîners clandestins au Palais Vivienne et ailleurs à Paris. C'est d'autant plus choquant qu'on en parle souvent ici à cette table. On soutient nos restaurateurs qui passent depuis un an une période très difficile. Donc ils font gaffe, ils font du click and collect, ils se sont adaptés. Et pendant ce temps-là, il y a des crétins qui organisent des déjeuners et des dîners clandestins. Je propose qu'à ce monsieur Chalençon, on lui retire la cédille, moi, déjà, pour commencer. vraiment. Non, mais voilà, c'est choquant et on comprend que ça choque, en fait, les Français, Charlotte. Hein.
Bah, ça nourrit les fantasmes aussi, hein, c'est vrai, puisque ça se passe dans des palais privés. Mais c'est vrai qu'il faut voir ce que la justice va pouvoir faire. L'enquête est en cours, mais c'est pas si simple.
Et
en fait.
Ça salit toute la réputation d'une profession qui, croyez-moi, est dans son immense majorité exemplaire dans ce qu'elle fait depuis un peu plus
tard. Oui, avec des mensonges, il y avait des ministres. On se rend compte pour l'instant qu'il n'y avait pas de ministre. Enfin voilà, c'est terrible quoi, ce discrédit. Donc voilà, c'était le dégoût de la semaine, on va dire. Allez, maintenant, positivons. Direction le marché de la fourche à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Alice Foss vous a demandé quelles étaient vos spécialités préférées chez les traiteurs. Parce que oui, il n'y a pas que des produits de saison au marché. Il y a de jolis traiteurs, des poissonniers et des traiteurs qui font de beaux plats.
Je vais souvent chez le traiteur libanais du marché de Clamart. Quand je rentre chez moi et que j'ai toutes mes courses, j'ai pas souvent forcément envie de faire à manger en rentrant. Donc pour moi, le traiteur, c'est super. Tout est fait maison, il le fait souvent sous nos yeux. Comme on peut plus aller au restaurant, ça fait une bonne alternative.
J'ai pris de la moussaka et puis je prends aussi des falafels. Et je viens ici parce que c'est excellent. En plus, bon, la moussaka, c'est un peu compliqué à faire. Disons qu'il faut de la place que j'ai pas.
Là, je vais acheter chez le boucher des lasagnes parce qu'il fait des lasagnes maison absolument formidables. Et en semaine, en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de faire à manger. Mes deux garçons mangent beaucoup parce qu'ils prennent leur cours évidemment à la maison.
Je vois que vous faites la queue devant le traiteur chinois. Qu'est-ce que vous aimez ici ?
Je vais acheter des nems et des nouilles pour ce midi. Je suis sur le chantier, entre deux rushs, on aime bien se faire plaisir aussi. C'est servi chaud, donc c'est toujours mieux quand on peut manger un sandwich. Quoi.
Ah bah voilà, des bons nems sur un chantier, c'est vrai que ça donne du cœur à l'ouvrage ça.
Oui, c'est vrai que les traiteurs de cuisine du monde en général sont très intéressants sur les marchés parce que c'est la pêche aux saveurs. Moi je m'arrête souvent chez un petit traiteur créole. Et je lui prends son colombo qui est délicieux, par exemple.
C'est vrai que c'est une façon de voyager encore plus en ce moment, hein, où c'est compliqué.
Une façon de voyager et puis de nous rendre service aussi, parce que parfois on n'a pas forcément le temps, c'est tout fait. Par exemple, moi j'ai un gros faible pour les bouchers à la reine, donc chez le charcutier, c'est parfait. Ça me... pas facile à faire, les bonnes bouchées à la reine. Donc voilà, et sinon j'appelle chez le traiteur italien, moi j'aime bien ce que j'appelle les involtini de la flemme.
Ah, oui.
C'est-à-dire, je pourrais les faire moi-même, hein, ces roquettes, ricotta et enroulées dans de la bressaola, mais j'ai la flemme. Donc,
ça, c'est vrai,
c'est
pour
parfait pour démarrer
le
réseau,
c'est très bien ça.
Il y a plein de petits antipastis sympas aussi, les petits poivrons farcis aux
artichauts à la romaine.
Voilà, exactement.
Merci les traiteurs d'être là évidemment et aussi de résister et puis d'accompagner les Français sur ces jolis plats préparés où que vous soyez. Je suis sûr que vous avez de belles adresses partout en France. Alors, tiens. Elle est fumée dans l'Est, elle est roulée dans le Sud-Ouest, elle est confite dans le Centre. On va faire le tour de France de la poitrine de cochon juste après ça. Et on a des choses à dire.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Généreuse et accessible, on déclare notre flamme ce samedi à la poitrine de cochon. Et où que vous nous écoutiez, eh bien je le sais, c'est un morceau associé à notre histoire paysanne. C'est elle, la poitrine, qui fait le bon lard. Alors avant de faire le tour des poitrines de France, si je puis dire, des poitrines de cochon, petite leçon d'anatomie bouchère, Olivier.
Oui.
Où elle se trouve dans le cochon, la poitrine?
Bah écoutez, c'est le long des flancs, voyez-vous, de l'animal.
Il se caresse les pectoraux en expliquant.
Je savais que vous étiez en forme.
Et donc on descend, puisqu'on est entre le jarret et le plat de côte. Hein.
Oui.
Alors c'est un morceau qui est très peu cher, vous l'avez dit, qui est très gras aussi. C'est ça qu'on aime. C'est sa particularité. Voilà. Mais écoutez, c'est un morceau qui est très long, en fait, qui longe pratiquement toute la carcasse, comme ça, du cochon.
Oui, vous regardez la vidéo, vous verrez Olivier Poul s'expliquer où se trouve la poitrine de cochon. Chère Charlotte, ce qu'on aime aussi dans la poitrine de cochon, c'est qu'elle est accessible en termes de prix.
Je vais vous parler prix, oui. Ça dépend quel morceau vous prenez quand même.
Fraîche demi-selle.
C'est entre 8 et 14 euros environ pour fraîche demi-selle. Et c'est plus cher en fumée, entre 10 et 15 euros. Donc le prix fluctue entre la boucherie de grande surface la ferme. Hein. Donc allez voir votre éleveur à la ferme, c'est pas le même prix. Par exemple, le porc de Bayeux chez Paulette dans l'Aveyron, et c'est un éleveur qui livre et qui envoie pour les particuliers, donc n'hésitez pas. Ces porcs sont élevés avec trois fois plus d'espace intérieur que demande le cahier des charges bio.
Porc de Bayeux dans l'Aveyron, donc il a fait de la route parce que c'est un porc qui vient du Nord, dans le Nord. Ouais.
Et il est abattu après 12 mois.
Donc voilà, c'est vrai que ça change tout quand le cochon est bien élevé. On a une viande ferme qui ne rend pas d'eau. On n'a pas cette texture caoutchouteuse. C'est plus ferme, il y a un goût plus intense. Essayez tout simplement.
C'est du bon gras.
Quand vous achetez une barquette de lardon industriel et une vraie tranche de lard chez le boucher que vous faites vous-même vos lardons, vous allez voir, c'est incomparable. Et quelques centimes peut-être de plus en achetant chez le boucher. Et pas toujours en plus.
Oui, mais il vous en reste plus après la cuisson. Puisque votre barquette de lardon industriel, quand vous les avez cuit, il y a un tiers qui est parti.
100% raison. Alors avant de faire un tour dans l'Est et dans le Sud-Ouest, eh bien on vous emmène dans le centre de la France, en Touraine précisément. Alors en Touraine, on aime aussi la poitrine, mais pas n'importe comment. Si je vous dis rillon, ça vous parle
ah
ça
oui.
Hein,
le gras.
Ces beaux morceaux bien épais, c'est des carrés de poitrine, on va dire, tout simplement, qui sont confits. Alors Julien Amat de la rédaction a suivi les rillons, de leur préparation jusqu'au marché, avec un autre Julien, Julien Garnier, qui est charcutier de la maison Ardouin. C'est une institution hein, depuis 1936 à Tours. Alors l'art et la manière du rillon, c'est maintenant.
Donc voilà.
On va retrouver nos marmites. En fait, les rillons commencent la veille. On découpe les poitrines la veille, comme un lardon, sauf que là, il est beaucoup plus gros, pour que quand on arrive le matin, à 5h30, la viande est déjà découpée. On n'a plus qu'à allumer les marmites.
Pour remuer, on n'y va pas avec une cuillère en bois.
Là, on est sur une spatule, une grosse spatule. C'est un petit peu physique. Nous, on met du vin blanc de Vouvray dans notre marmite. Le cépage chenin se marie très bien avec la charcuterie. On va être sur 1h30 de cuisson. La cuisson se déroule à l'étouffée pour permettre de garder le produit très moelleux. Le rillon, quelque part, est confit. La cuisson est terminée, donc on va les emmener aux Halles de Tours pour pouvoir les amener à nos clients.
Est-ce que je peux goûter les rillons, s'il vous plaît ? C'est trop bon. C'est pour manger à l'apéro ce soir.
Comme j'ai fait, vous les coupez bien sur le sens de la hauteur.
Ok, pour avoir du gras dans chaque morceau.
Exactement, vous avez tout compris.
Ok, vous super, merci.
Eh bien, on se régale et ils ont bien de la chance aux Halles de Tours. Et je peux vous dire qu'on en croque pour le rillon autour de la table ce samedi matin. Il y a une belle répartition entre le maigre et le gras. Hein.
Puis ça a beaucoup de goût. Parce qu'on a à la fois le côté un peu caramélisé au départ. Donc on a gardé grillé ses sucres. Et en même temps, on a le côté confit de cette cuisson très lente et très longue.
Et puis c'est bien moelleux. Et puis même s'il ne fait pas super beau aujourd'hui, appelle un petit peu l'apéro, le barbecue, tout ça. Ça fait vraiment...
J'adore ça. C'est vrai que ceux-ci sont faits avec du porc rose de Touraine. C'est une association d'éleveurs qui s'est regroupée et qui a fait une sorte de marque d'un cochon qui est élevé en Touraine. C'est un petit peu un cousin du confit de canard, hein, on peut dire, ce rillon avec cette poitrine confite. Hein,
C'était une manière de conserver finalement les viandes qu'on remettait ensuite dans leur gras. Ce qui les protège de l'oxydation, qui permet de les garder plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le gras qu'on peut ensuite faire fondre et récupérer pour cuire des aliments.
Oui, et puis alors dans le Sud-Ouest, par exemple, on la roule et puis on l'appelle ventrèche,
tout
simplement.
Exactement, voilà. Absolument. Ouais.
C'est ça. Alors évidemment, c'est un travail de charcutier, boucher. Elle est désossée, parée, décoinée, mise à saler, égouttée, etc. Et donc, en plus, on la serre. Et puis évidemment, quand on est dans le Sud-Ouest, on la frotte avec du piment d'Espelette, au hasard, ou alors un petit peu de poivre. Et puis voilà, c'est ce que je disais, prêt pour le barbecue.
Une belle salade verte, des pissenlits quand on en trouve, les endives. L'amertume casse bien effectivement le gras aussi.
Exactement.
Sur le groupe Facebook des bons vivants, sur la page Europe 1, il y a des amateurs de poitrine de cochon aussi, hein, Olivier.
Oui, avec même une recette signée Frédéric, ce qu'on pourrait appeler un 200% cochon en quelque sorte, puisque il prend de la poitrine de cochon et il entoure un filet mignon. C'est le cochon dans le cochon, mais ça doit être intéressant parce que le filet mignon est une viande un petit peu sèche, alors que la poitrine, elle est très grasse et l'un va forcément nourrir l'autre. C'est pas mal.
Une belle recette cochonne alors. Allez, ce matin, on va bouillir, rôtir et gratiner. Mais avant notre dossier consacré aux cuissons, on va fêter les 100 ans du restaurant La Mère Brasier à Lyon. Pourquoi sa cuisine est toujours actuelle ? Eh bien, réponse juste après ça. Et Jean-Luc Petit-Renaud sera dans le coup aussi. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Alors c'est amusant, écoutez, 100 ans jour pour jour, le 10 avril 1921, Eugénie Brasier ouvrait son restaurant rue Royale à Lyon, une institution près des quais du Rhône dans le premier arrondissement lyonnais. Aujourd'hui c'est le chef Mathieu Viennet qui est au fourneau de la mère Brasier depuis 2008. 2008 il me semble. Alors elle a ensuite aussi ouvert une deuxième adresse, elle au col de la Luère à l'ouest de Lyon, la même où un certain Paul Bocuse a fait ses classes. Alors pourquoi la mère Brasier est toujours aussi actuelle? On se pose la question ce samedi avec Charlotte Langrand et Olivier. Et Charlotte,
en 1933, déjà, c'est la première femme à avoir obtenu non pas 3, mais 6 étoiles, 2 fois 3 dans 2 restaurants. Et puis, elles sont encore assez rares, les femmes, à avoir obtenu 3 étoiles. Elles sont 4 à les avoir eues. Eugénie Brasier, Marie Bourgeois, Marguerite Bise et puis Anne-Sophie Pic aujourd'hui. Donc déjà, c'est une belle performance qui date d'il y a longtemps.
Anne-Sophie Pic qui viendra bientôt ici à notre table et Guy Savoie sera avec nous aussi avant midi, tout à l'heure. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle fait partie de cette fameuse famille des mères lyonnaises,
Olivier. Qui ont marqué la cuisine pratiquement de la fin du 19e siècle jusqu'à la première et même seconde guerre mondiale. C'était des femmes qui avaient un caractère incroyable. Il faut voir qu'elle a quand même commencé sa vie comme petite fille de ferme, où elle était aux tâches de rentrer les vaches, de s'en occuper, de porter l'eau. Et ensuite, elle a appris la cuisine, tout d'abord derrière les fourneaux d'un fabricant de pâtes lyonnais, Mia. Et ensuite, auprès d'une autre mère lyonnaise très connue, la mère Filiou, qui lui a transmis cette passion de la cuisine et qui notamment lui a transmis cette fameuse recette de la volaille en demi-deuil qui reste un des plats incontournables de la mère Brasier aujourd'hui, vous l'avez dit, dirigée par Mathieu Vianney.
Et chez Bocuse aussi.
Et chez Bocuse, Mathieu Vianney qui a repris cette institution en 2008 alors qu'elle était tombée en totale décrépitude. Je crois qu'il l'a rachetée au tribunal de commerce pour pratiquement rien. Il l'a fait revivre, il a retrouvé les décors originaux derrière des tentures et des papiers absolument abominables. Et il a redonné vie avec son talent actuel, parce qu'il est aussi meilleur ouvrier de France, et une vision plus contemporaine de la cuisine.
Et est-ce qu'on peut dire, c'est que les préoccupations de la mère Brasier, bien, elles sont actuelles, la qualité du produit et la qualité de l'ambiance dans la salle.
Ah oui, elle était intransigeante sur la qualité des produits, elle avait raison, elle examinait vraiment apparemment chaque produit, la fraîcheur, l'aspect, et elle renvoyait carrément la marchandise si un produit avait le moindre défaut, si bien que je crois qu'il y a un éleveur de volailles de Louhans qui lui a lancé un jour, faudra bientôt manucurer les volailles avant de les livrer. Quoi. Donc, vraiment.
Mais moi, j'ai rencontré Paul Bocuse quelques temps avant sa mort et j'avais fait une interview avec lui et il me racontait que chez la mère Brasier, il dit il fallait savoir tout faire. Donc, il fallait traire les vaches au col de la Luère, s'occuper du potager, s'occuper du linge, il s'occupait du linge de table, il faisait tout, voilà, elle nous a appris à tout faire, c'est ça aussi un vrai
restaurateur
cuisinier.
Dans son ensemble.
Exactement, le restaurateur avec un grand air. Alors, justement, quand on pose la question, tiens, au camarade Jean-Luc Petit-Renaud, eh bien lui, il pense que la mère Brasier était de la même famille que les auteurs de Belles Histoires. C'est une mère nourricière, ses plats réconfortés, eh bien un petit peu comme un conte qu'on raconte aux enfants. N'est-ce pas, tonton Jean-Luc ?
Moi, je suis à peu près sûr et certain que La Fontaine ou encore même Charles Perrault, le poète, ils ont dû jouer dans la même cour d'école à Lyon que Eugénie Brasier. Les petits-enfants vraiment gourmands de la poésie de Perrault, des contes sages comme des images, il fallait bien apprendre ses leçons avant d'avoir le joli conte lu par la maîtresse, eh bien la mère Brasier, c'était un peu la même chose. Elle soignait les grands-enfants, les députés, les sénateurs, les présidents, les maires. Eugénie Brasier, elle caressait de jolis contes dans sa cuisine. Le fond d'artichaut se roulait sous le couteau pour se glisser ensuite sous la tranche de foie gras, une générosité, une tendresse que l'on ne trouvait nulle part ailleurs. D'où la naissance de cette cuisine de mère nourricière. Ils venaient finalement roucouler leur amour dans les bras de la mère Brasier. Oh, ce que j'aurais aimé être grand enfant à cet âge-là.
Tu m'étonnes. Et nous donc, voilà, les belles histoires sont remplacées par des poulards demi-deuil, par des recettes
emblématiques. Foie gras, qui est un plat finalement très moderne encore. Hein. Les quenelles, les incontournables quenelles, évidemment, ou le pain de brochet croustillant aux écrevisses. Toute cette belle et généreuse cuisine lyonnaise qu'on trouve encore d'ailleurs aujourd'hui.
Alors pour perpétuer l'esprit de la mère Brasier, sa petite fille, Jacotte, a créé l'association Les Amis d'Eugénie Brasier, une association qui aide les femmes en cuisine, on peut dire.
Oui, et qui donne notamment, qui délivre des bourses pour des apprentis en salle ou en cuisine pour des gens plutôt défavorisés, pour les aider à trouver des stages notamment, et qui remet chaque année un prix littéraire pour récompenser un livre de cuisine, soit écrit par une femme, soit qui parle des femmes en cuisine.
Et à propos, elle sort un livre aussi, Jacotte.
Oui, le livre sort, et vous avez également fait un petit tour sur les réseaux sociaux de la mère Brasier sur Instagram et Facebook, parce qu'il y a un jeu concours de cuisine qui va faire gagner des repas au restaurant quand ça sera rouvert.
Rouvert, allez.
Alors, la réouverture, mais ce sera rouvert.
Ce sera rouvert. Référence sur europe1.fr. La mère Brasier savait cuire, rôtir et braiser à la perfection. Alors, si vous aussi, vous voulez découvrir les secrets des cuissons, restez avec nous, c'est juste après ça. Vous le savez, chaque samedi matin, on aime les bonnes choses sur Europe 1. Eh bien, la preuve, voici les Beatles. Here comes the sun.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say,
it's all right.
Qu'est-ce que c'est bon jusqu'au bout, ça fait du bien. Aussi bon qu'un gratin dauphinois, c'était les Beatles sur Europe 1. Alors,
Here comes the sun.
Bien, redites.
Here comes the sun.
Vous le dites bien, Olivier.
C'est une incantation, vous voyez, ce samedi un peu gris.
Charlotte,
on en a besoin.
Here comes the sun.
Ah ouais, vous faites très bien.
Ouh là là, attention.
Rôtir, braiser, pocher, cuire à la vapeur, gratiner, bouillir, frire, saisir. Le dictionnaire des cuissons semble infini. Alors, ce matin, on va en passer quelques-unes à la casserole. Pour nous éclairer, on accueille un ancien chef, ingénieur et professeur des sciences de l'aliment à AgroParisTech, s'il vous plaît. Il sort un livre consacré aux cuissons, Le grand précis des cuissons au poil. C'est Stéphane Lagorce, notre invité. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci à vous, c'est un très plaisir de vous voir.
Et bravo pour ce grand précis des cuissons au poil, de la chipolata au caramel mou, mieux connaître et mieux aimer. C'est vrai que les cuissons font partie de notre quotidien. Vous étiez l'auteur du traité de miamologie, on en avait parlé déjà
oui,
ici.
Oui, oui. Hein,
vous aimez bien expliquer la cuisine par le pourquoi. Et les cuissons, pour vous, c'est une galaxie infinie. Hein.
Infinie et d'une certaine manière quasi inconnue, puisque finalement, on pratique les cuissons souvent de manière un petit peu... pas répétitive, mais on nous dit de faire d'une certaine manière, on applique la
ce
cuisson. Souvent d'ailleurs, quand vous regardez dans des livres de cuisine, en fait, vous avez un énoncé de la recette qui est assez lent, et la cuisson, c'est mettez au four, faites cuire en bouillant, ou des choses assez courtes finalement. Or, cette petite ligne très très courte, elle est beaucoup plus complexe et tout à fait passionnante.
Le four peut être vif au départ et ensuite on peut le baisser. L'ébullition peut être à frémissement ou grande ou petite.
Ce qui change absolument tout. Mm-hmm. Et en fait, les cuissons sont truffées de petites subtilités comme ça. L'ébullition, par exemple, en fait, la différence entre une ébullition forte et modérée, disons, c'est qu'en fait, la chaleur passe plus vite de l'eau vers l'ingrédient, même si on est toujours à 100 degrés. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui paraissent subtiles et passionnantes.
On va s'arrêter sur l'ébullition, tiens, justement. Hein. C'est vrai que, comme vous le dites, les petits frémissements et les gros frémissements, les gros bouillons, c'est pas la même chose. Alors, quelle puissance pour quel ingrédient et pour quelle cuisson, par exemple ?
Alors, par exemple...
Les pâtes, allez.
Alors, les pâtes où on veut une cuisson...
Je veux pas des coquillettes ratatinées et mollassonnes.
Alors, dans ce cas-là, il faut faire une cuisson qui sera plutôt lente, c'est-à-dire qui donne à la fois le temps à la pâte de cuire, c'est-à-dire que la chaleur transforme l'amidon qui est dedans, et l'eau de pénétrer un petit peu dans la pâte. Parce qu'en fait, c'est une cuisson, hydratation, comme on dit. Les deux se passent à la fois.
Mais lente, ça veut dire quoi ? Petite ébullition ou gros bouillon ?
Oui, en fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir une ébullition ultra forte pour des coquillettes qui ont une forme un petit peu spécifique. Hein,
Ah oui, je parle des... Voilà, d'accord. Voilà. Oui, voilà, vous parlez des coquillettes, parce que si je fais des penées, par exemple...
Ah oui, c'est dur avec les formes des pâtes, al dente ou pas, etc.
Le problème des pâtes, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement de formes différentes que ça appelle...
Oui, il y en a certaines qui ont besoin de gros bouillons. Hein,
voilà, par exemple, les spaghettis, c'est un peu plus conforme parce que comme ce sont des petits tubes très très longs qui développent une surface très grande, en fait, on a besoin de les cuire plus vite. Enfin bon, je
parle. C'est passionnant. Et vous expliquez tout ça dans le livre qu'Olivier lisait religieusement encore à 11h.
C'est Olivier qui l'a.
Non, mais j'adore ce livre. Tout le monde devrait l'avoir et surtout les chefs devraient l'avoir parce que vous savez, beaucoup de chefs font des recettes parce que on leur a montré, on leur a expliqué, mais ils ne savent pas pourquoi on fait comme ça, justement. Et vous décortiquez de manière scientifique et vous nous expliquez de manière scientifique pourquoi à un moment on doit mettre un couvert sur une casserole ou pourquoi il ne faut pas le mettre, pourquoi on doit démarrer à four froid ou pourquoi on doit démarrer à four chaud. Et quand on comprend, ça donne tout de suite une autre perspective.
Alors on rentre, dans la saison des langoustines, par exemple. Ça, c'est un produit délicat, on en parle régulièrement.
Hyper
ici.
Dur à cuire.
Hyper dur à cuire, mais saisi dans de l'huile d'olive, on sait que c'est délicieux, à peine aller 2 minutes. Hein, vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, oui. C'est des produits qui cuisent extrêmement rapidement et qui ont besoin d'avoir un flux de chaleur très brutal, très fort et très court. Donc, si je reviens à l'ébullition,
oui, parce qu'on peut les faire au courbouillon aussi,
les langoustines. Là, on a besoin d'une ébullition forte qui va transférer la chaleur immédiatement de l'eau à la langoustine. Et pour avoir quoi ? Pour avoir la texture si délicate et croquante des langoustines bien cuites. Quand vous avez les langoustines qui sont un petit peu pâteuses, vous savez comment ça fait un petit peu molle.
Oui, cotonneuse, oui.
Trop de cuisson, c'est ça. Ébullition faible ou trop de temps à la poêle ou trop de quantité dans la poêle qui change le régime de cuisson.
Et combien de temps pour des langoustines alors par exemple ?
Dans un courbouillon
Bien assaisonné.
Mais on parle presque en dizaines de secondes. Hein, alors tout dépend de la quantité que vous allez mettre.
Oui. Et de la taille des langoustines.
Oui, de la taille des langoustines, mais on est entre 45 et une grosse minute pour des bêtes un peu plus conséquentes.
C'est ça, il faut peut-être revenir sur des légendes de cuisson en fait, qu'on faisait toujours. On avait tendance de faire tous les légumes à l'eau. Par exemple, je ne sais pas moi, mais les petits pois qui sont en train d'arriver, je ne les fais pas à l'eau. Moi, je les fais à la poêle juste pour les réchauffer. Je les mange quasiment presque cru, en fait. Cru, cuit, réchauffé. Et il y a beaucoup de plus en plus de gens qui font ça. C'est une erreur ou je me trompe?
Vous n'avez pas besoin de mon livre, là, parce que vous avez tout compris. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'en fait, quand on cuit les petits pois à l'eau, en fait, il se passe un phénomène qu'on ne voit pas. C'est qu'il y a beaucoup de saveurs qui passent dans l'eau, qui passent dans la vapeur et qui se retrouvent dans votre cuisine. D'ailleurs, ça sent les petits pois quand vous les cuisez, mais le goût, il est plus dans les petits pois. Donc, du coup, de cuire les petits pois à la poêle, c'est tout à fait légitime et c'est même très bien, d'autant plus que dans le petit pois, il y a bien assez d'eau pour le faire cuire.
Il y a les poissons aussi. Vous accordez un chapitre aux poissons dans votre livre. Alors ça, c'est passionnant parce que vous dites que les poissons vivent dans l'eau, sont pleins d'eau, mais en même temps, ils font des transferts d'eau. Racontez-nous ça, c'est passionnant.
C'est une des raisons pour lesquelles les poissons cuisent si vite. Enfin, les poissons maigres, surtout, qui sont si difficiles à cuire, c'est que pendant leur vie aquatique, en fait, si vous voulez, en fait, l'eau dans laquelle ils nagent, en fait, ils échangent leur propre eau avec l'eau qui est à l'extérieur. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais et donc du fait, la structure de leur filet, si vous voulez, est extrêmement poreuse, pour le dire vite, et donc extrêmement réceptive, réactive à la cuisson.
Oui, comme dit Jean-François Piège, ça cuit de peur, le
poisson,
cuit de peur,
et
c'est vrai.
Oui, cette expression, j'aime bien.
Alors, bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire. On continue, on va parler de la cuisson au micro-ondes, on va parler du poulet rôti du dimanche, cette fameuse cuisson par convection, et puis on va aussi parler des fritures. On revient au chaud, juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Les secrets des cuissons sont infinis. Pour les découvrir, nous sommes avec Stéphane Lagorce, ancien chef, ingénieur, professeur des sciences de l'aliment et auteur du grand précis des cuissons au poil chez Homo Habilis. En commande sur le site d'Homo Habilis et en librairie le 16 avril, Stéphane, votre livre.
Exactement, oui.
Il est passionnant. Alors, on va sortir de l'eau, tiens. On était dans les ébullitions. Maintenant, on va se réchauffer avec la température du four et de la flamme. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur du verbe naître, disait Bria Savarin. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, c'est une cuisson qui est fort
la flamme.
Fort complexe, qui à la fois, quand on la pratique, semble simple. On ouvre une porte, on ferme et on attend. C'est vrai que dit comme ça, ça paraît tout simple. Mais en fait, de bien percevoir ce qui est en jeu là-dedans, ça demande beaucoup de sens d'observation. Et je pense que Bria Savarin avait vraiment ça en lui à l'époque.
Et demain, c'est dimanche. De nombreux auditeurs vont faire ce beau poulet rôti qui réunit la famille et les amis.
Et c'est toujours un débat de cuisson.
Toujours, oui.
Alors, départ à froid, le four, départ à chaud, tiens déjà.
Alors, sur ce cas-là... Tout dépend en fait du résultat final. Si on veut quelque chose,
on veut une peau croustillante et on veut une viande fondante.
Ah bah voilà. Donc du coup, on veut ce qui est le plus compliqué. Dans ce cas-là, on sera quand même plutôt à démarrer à chaud. Et ce qu'on va faire, mais ce qu'on fera dans beaucoup de cuissons au four, c'est qu'on va commencer relativement chaud pour obtenir une coloration satisfaisante.
Et on met du sel pour que ça.
Oui, je l'ai pas dit. On assaisonne avant, qui déshydrate très légèrement la périphérie, qui facilite la coloration. Et ensuite, on va plutôt à baisser la température, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des produits qu'on cuit au four, au fur et à mesure de leur cuisson, ils deviennent isolants. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait surprenant.
Donc plus la température ne rentre plus.
Plus ils cuisent, moins ils cuisent. Et là, ce qui est complètement contre-intuitif, ce qu'il faut faire, c'est baisser la température pour que la chaleur continue à pénétrer le poulet, le gâteau, la
Quelle température ? On commence à combien ? À 200, 220 ?
Là-dessus, je dirais que oui, 220, c'est déjà relativement haut. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend. Le problème, c'est que c'est souvent une réponse de l'armement, ça dépend. Ça dépend de la convection, c'est-à-dire de la vitesse à laquelle votre petit ventilateur au bout du four, il tourne.
C'est pour ça qu'à chaque fois, les gens ne sont jamais d'accord sur les températures et sur les temps de cuisson au four, parce qu'on n'a pas tous le même four.
Parce que là, Laurent, vous touchez du doigt un aspect de la cuisson, qui est l'aspect que j'appelle moi qualitatif. Le quantitatif, c'est quelle température, combien de temps. Mais le qualitatif, c'est beaucoup d'aération, beaucoup d'humidité dans le four. Et ça, ça dépend de tous les fours qu'on a, que les gens ont. Et donc, du coup, moi, dans mon livre, j'essaie de donner un peu les grandes idées, les grandes notions, mais finalement, tout s'adapte.
Et alors, si on rajoute une papillote
en fait, si vous mettez une papillote de poisson, vous enfermez l'eau contenue dans le poisson qui va se vaporiser. D'accord. Donc, vous créez une légère surpression qui vous augmente la rapidité de cuisson. En fait.
D'accord.
Donc, ça va bien pour les cuissons qui
c'est de la chimie.
Moi, j'ai besoin qu'on parle de la friture quand même.
Le Belge qui revient avec ses trucs. On va en parler dans un instant, Olivier, de la friture. Mais juste avant, je voudrais qu'on poursuive ce que vous disiez. C'est très intéressant sur cette chaleur qui saisit comme ça, qui fait une coque et ensuite elle isole et elle protège l'intérieur. C'est le même principe que la brioche que vous venez d'apporter.
Voilà. Je vous ai mis une petite brioche. Donc j'ai appliqué à moi-même le principe que je vous annonce. C'est-à-dire que j'ai commencé relativement chaud, 170, et j'ai terminé vers 140. Donc, en fait, un gâteau, quand il cuit dans un four, il gonfle. C'est d'ailleurs ce qu'on lui demande. Et quand il gonfle, les petites bulles d'air, en fait, deviennent isolantes. Elles empêchent la chaleur de rentrer. Donc, évidemment, on veut mettre plus chaud. Donc, ça brûle encore plus. Et ça isole encore plus. Et il faut faire le contraire. On baisse la chaleur du four. Et ça permet d'avoir, j'espère que vous le trouverez, ça donne des brioches qui sont extrêmement moelleuses.
Oui, humides.
Encore cuites, mais très fondantes. Et chose qu'on n'a pas si on fait une cuisson linéaire, c'est-à-dire même température tout le long.
Pareil pour les cakes, il faut faire la même chose.
Tout ça fonctionne de la même façon.
Pour pas que ce soit sec à l'intérieur.
Voilà, il faut vraiment l'essayer parce que ça fait vraiment une différence, c'est tout simple.
On vous mettra la recette de cette belle brioche de Stéphane Lagorce sur notre site europe1.fr à la page des bons vivants. Alors, venons-en à la friture.
Trépigne.
Alors, la friture, on entend souvent, mais non, la friture, c'est pas gras. Alors, c'est gras ou c'est pas gras, la friture?
On n'ira pas peut-être jusque-là, mais...
Alors, oui, on n'ira peut-être pas complètement jusque-là, surtout devant un expert, Olivier, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les produits de la friture deviennent gras, pas pendant qu'ils cuisent, mais quand on les sort. Parce qu'en fait, pendant qu'ils cuisent, ils sont gonflés, la vapeur sort de la frite, de son gras, et donc ça crée une surpression qui empêche l'huile de rentrer. Et c'est quand on les égoutte que la chaleur baisse forcément, que le produit se rétracte et aspire toute l'huile qui est autour. Donc du coup, le secret, c'est quand on égoutte immédiatement papier absorbant. Mais c'est pas dans 5 secondes ou dans...
Tout de suite.
Immédiatement.
On
et là, vous avez des fish and chips, des frites qui sont...
Et d'ailleurs, qui seront plus croustillants parce qu'on va garder justement cette pellicule extérieure qui ne sera pas trop imbibée de gras et qui ne va pas ramollir.
Exactement.
Il n'y a qu'à voir le gras qui reste sur le papier absorbant.
Ah oui, ça fait peur.
On s'en rend compte, mais c'est important ce geste. Égoutter et papier absorbant pour les frites, pour les beignets de crevettes,
les beignets
vous en parlez aussi.
Oui, voilà, tous les produits frits, les beignets, les merveilles, enfin toutes ces petites choses délicieuses. Alors j'ajoute un mot, c'est que la friture, c'est la friture qui donne le plus de goût. L'interaction entre le produit dans l'huile génère tellement de saveurs et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime tous
C'est pour ça qu'on aime bien. Et une question tient à propos du micro-ondes. De nombreux auditeurs ont un micro-ondes. Déjà, vous êtes un adepte de la cuisson micro-ondes ou
J'ai pas de prévention, c'est une cuisson très intéressante. Le problème du micro-ondes, c'est que le plus souvent, on met dans le four, on appuie sur le bouton et on règle pas.
Oui,
alors donc, du coup, on se prend 900 watts là-dedans et
on met toujours au plus fort.
Voilà, il faut être plus subtil, il faut régler, il faut chercher.
On a raconté souvent, moi j'ai eu des discussions avec des médecins qui expliquent que le gras chauffé au micro-ondes ne serait pas bon pour la santé, que les molécules du gras se transforment et auraient des incidences sur le système nerveux. Ça, vous avez entendu parler de ça ou pas ?
Je pense que cette remarque, elle est fondée lorsque effectivement les gens mettent un produit au micro-ondes riche en gras, qu'ils le mettent à 900 watts pendant je ne sais pas quelle minute, qui provoque des échauffements, ce qu'on appelle des échauffements locaux, dans un endroit très très précis du produit qui surchauffe,
localisé,
qui surchauffe, qui surcuit, qui polymérise, comme on dit dans le jargon, et qui crée des composés qu'on ne veut pas avoir. Mais ça, c'est parce qu'on est on a un cas d'utilisation presque extrême du four micro-ondes qui n'a pas lieu d'être.
Enfin, finalement, on dépasse pas quoi 600 watts, plutôt quitte à mettre un tout petit peu plus fort.
Moi, je trouve que la plage des 300, 400, voire 500 watts, elle est largement suffisante pour faire les choses. Il n'y a pas besoin de puissance comme ça. C'est tout à fait.
Vous entendez, c'est passionnant, grand précis des cuissons au poil. Merci Stéphane Lagorce.
Ça va être mon livre de chevet.
Oui, mais j'ai vu, vous l'avez déjà bien repéré. De la chipolata au caramel mou, le grand précis des cuissons au poil aux éditions Homo Habilis. Merci Stéphane Lagorce d'être venu à la table des bons vivants.
Merci à vous tous.
C'est bientôt l'heure d'accueillir notre invité. Je peux vous dire que lui, il connaît ses cuissons sur le bout des doigts. Le chef Guy Savoie, le vrai, oui, il sera avec nous. Il est en approche. À tout de suite. Chaque samedi, vous le savez, on déclare notre flamme au meilleur du bon. Et bien voici une autre amoureuse ce samedi matin, Carla Bruni, un grand amour sur Europe 1.
On peut chercher l'amour dans les yeux que l'on croise, dans les peaux que l'on touche, au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche. On doit chercher l'amour, c'est la moindre des choses, tu sais. Il n'y a rien d'autre au monde, c'est vrai, et rien d'autre qui compte. On peut chercher l'amour de mille et une manières, tranquillement en passant, ou alors comme s'il n'y avait rien d'autre à faire. On doit chercher l'amour pour sauver nos peaux de l'effroi, pour sauver nos vies de l'enfer. C'est gravé dans la pierre, mais quelquefois il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors voilà le grand celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours. On a besoin d'amour, quels que soient nos visages, quelles que soient nos prouesses, et quelles que soient nos équipés sauvages. On a besoin d'amour, tout comme l'on respire, tu sais. C'est là qu'est notre inespéré, c'est là qu'on se déchire. Il nous arrive d'aimer contre toute espérance, sans l'ombre d'un atout, sans l'ombre d'une chance, comme à genoux. Il nous arrive d'aimer comme des naufragés, tu sais, comme des possédés, c'est vrai, c'est là qu'est notre chance. Et quelquefois, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors, voilà le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours. Quand on retrouve l'amour, c'est comme une page blanche qui nous reste à écrire, tout comme l'on se penche. Regarde, regarde, il nous arrive un grand amour qui nous emporte sans retour, sans pardon, sans pourquoi. Et alors, voilà. le grand amour, celui dont on rêvait toujours, dont on rêvait toujours.
Carla Bruni a un grand amour sur Europe 1. Son grand amour, c'est la cuisine. Et bien voici l'heure d'accueillir notre invité. Quand il voit les langues de chat cuisinées par sa maman sortir du four, pour lui, pas de doute, la cuisine, c'est de la magie. Apprenti chocolatier, il se tourne vers le salé chez les frères Troisgros, Lasserre et bien d'autres. Il ouvre son premier restaurant parisien à 27 ans en 1980. Aubergiste avec un grand A, il est à la tête de 6 restaurants aujourd'hui et il publie une collection de livres sur les soupes. Le chef Guy Savoy est notre invité. Bonjour Guy.
Bonjour.
Bonjour
à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là.
Bah, ravi de vous retrouver enfin à cette table parce que l'invitation a été lancée. Votre rôle serviette vous attend depuis un moment.
Non mais merci, merci d'avoir pensé à moi. En tout cas, je suis un fidèle auditeur, et à chaque fois, vous imaginez bien que je me régale.
Ah bah ça fait plaisir, venant de vous, ça fait très plaisir. Un aubergiste avec un grand A. C'est vrai que je trouve que vous faites partie, et ils ne sont pas nombreux, de ces chefs cuisiniers triplement étoilés, et qui rassurent le commun des mortels, même des gens qui ne sont pas allés encore dans ces beaux endroits, parce qu'avec votre sourire, votre bonhomie, on sait qu'on va être bien pris en main.
Oui, je crois que bien sûr, un lieu, enfin une maison, parce que pour moi un restaurant c'est avant tout une maison qui doit ressembler à celui qui l'anime. On a la chance de faire un métier, on est dans l'hyper concret et dans l'instantané. Et ça, à chaque fois, moi c'est une réjouissance de voir arriver les produits, de les transformer et de savoir que de l'autre côté de la cloison, des convives vont les déguster.
On vient de parler des cuissons juste avant Carla Bruni, ce joli titre qu'on vient d'écouter. La cuisson, c'est tout un art, évidemment, pour vous, Guy Savoy. Je me souviens vous avoir rencontré une fois et vous avez expliqué que vous avez compris tout l'art des cuissons avec l'inertie de la chaleur en faisant une omelette, c'est ça ?
Absolument, oui, tout à fait. Mais quelle que soit la préparation, je crois que si on attend que l'omelette soit terminée sur le feu, elle sera forcément trop cuite.
C'est déjà trop
tard. Il faut
tard.
Penser que la poêle est un réservoir d'énergie et qu'il faut profiter de ce réservoir d'énergie pour terminer gentiment la cuisson de l'omelette. On la décolle vraiment du feu, on garde juste le coin, un petit coup sur la poignée pour la replier.
C'est ça.
Et voilà.
Ah, et là, on y est.
On y est.
Quel est votre goût de la semaine, Guy Savoy ?
Ah, mon goût de la semaine, alors ce sont les morilles. Parce que moi, j'ai une passion pour les morilles. Et celle-ci, elle venait d'Alsace, parce qu'il faut faire attention. Alors,
oui.
Et j'ai encore pas compris pourquoi les nôtres étaient les meilleurs.
Lesquelles les vôtres?
Les françaises.
Les italiennes sont bonnes aussi quand même.
Voilà. Alors, dans ma petite tête de dauphinois, je me suis peut-être dit, la qualité doit correspondre à la distance de cueillette. Enfin, au temps qui s'est passé entre la cueillette
probablement
et le marché. Il faudrait qu'un jour j'aille en Turquie ou en Chine goûter des morilles sur place pour voir si on... Mais celle-ci, alors, c'était un mélange parfait. Vous savez, ces grosses morilles blondes,
oui.
Bien oblongues et tout, et les petites brunes bien... Enfin,
coniques,
mais... Et là, j'ai fait le mélange des deux et c'est le seul... En fait, c'est le seul plat salé pour lequel j'utilise de la crème.
Ah, mais parce que les alvéoles, elles demandent de la crème.
Absolument, il faut absolument nourrir la morille. Bien sûr, inutile de rappeler qu'il faut impérativement la cuire beaucoup, parce que crue, elle est toxique. Ouais. Et en fait, et ça je l'ai mis au point avec un de mes amis cueilleurs de morille, je mets la pointe, mais vraiment la pointe d'un couteau de moutarde.
Ah, oui.
Mais quand on dit la pointe, c'est vraiment... Le bout du bout du bout du bout du couteau.
Et après, un peu de vin jaune ou pas pour vous ?
Non, là je l'avais fait, écoutez, avec du veau et quelques pointes d'asperges. Enfin, c'est tout.
La saison, on est en plein dedans.
Voilà.
Alors on l'a dit, vous avez démarré chez un chocolatier, vous êtes un bec sucré aussi. Mmh. Eh bien Charlotte Langrand va vous rappeler des souvenirs de poche à douille, ce matin, et de sucre. Charlotte, vous allez nous raconter cette folie des choux pâtissiers. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Guy Savoy, mais il y a un engouement pour le chou pâtissier partout en France, dans les pâtisseries.
Oui, alors vous savez, il paraît que le macaron déprime, hein, et il a de quoi, puisque jusqu'ici c'était la star de la catégorie petite bouchée sucrée.
sucré. Et puis voilà, depuis peu, on ne jure plus que par son concurrent, le chou à la crème. Faut dire qu'il a les arguments, hein. Il est vraiment très dodu, beaucoup plus que le macaron. Il promet à coup sûr de déborder de crème quand on mord dedans. Et puis bon, voilà, la période est difficile, on a besoin d'un gros réconfort sucré. Donc bah, c'est l'amour chou, hein, que voulez-vous.
Il y en a pour tous les goûts en plus.
Chou ou éclair d'ailleurs.
Chou, parce que moi, oui, c'est la même famille.
J'ai
hein.
une affection particulière pour l'éclair au chocolat.
Exactement, oui.
Mais les... bien chocolaté, quoi.
Oui, oui, qu'on sente bien le chocolat. Mort bien
chocolat.
D'accord.
Ouais, voilà.
Oui, absolument.
Et oui, et les choux, mais justement, les choux, les chouquettes, ça réconcilie tout le monde, hein, du boulanger de quartier au chef pâtissier haut de gamme. Hein. Citons à Paris ceux de chez 12, c'est le nouveau food court du 12e arrondissement qui sont dévalisés dès le début de la matinée. Pareil pour ceux de la nouvelle pâtisserie tapisserie de Bertrand Gringo qui sont à la Flouve. C'est une plante parfumée. Où il y avait un défilé de choux, hein, carrément, la fashion chou du pâtissier Benoît Castel avec des classiques au chocolat à la chantilly ou plus atypique avec pistache clémentine ou sarrasin. À Lille, vous pouvez aller chez Merthe, évidemment, qui revisite le Saint-Honoré en version individuelle. Voilà.
On a parlé du Saint-Honoré.
Ah, ça, voilà. C'est un chef-d'œuvre.
En Alsace, vous avez Christophe Felder et Camille Lesec qui réhabilitent les croquants bouches, hein, la fameuse pièce montée des mariages. Il y en a pour tout le monde. Celui qui plie le jeu, comme on dit en ce moment, c'est Philippe Conticini avec son bar à chouquettes dans le 3e à Paris. Il les monte à la minute et sur mesure. Chacun choisit son parfum et même son insert, hein, praliné, caramel, pâte de spéculoos, confit d'agrumes. Parce que le secret des choux, eh ben, c'est de les manger frais.
Eh ben oui, c'est ça. Puis alors, c'est vrai que c'est une pâtisserie qui ne date pas d'hier, mais qui est intemporelle. Hein. Une question peut-être pour Guy, tiens.
C'est deux métiers bien distincts, le pâtissier, le cuisinier. Et vous, est-ce que vous auriez envie d'ouvrir un bar à choux ou une pâtisserie un jour ?
Un bar à choux, pourquoi pas ? Bon, mais moi, j'avais ouvert une boutique de brioche, brioche feuilletée.
Hein, la fameuse brioche de Guy Savoie, voilà, qui permet de faire tremper dans cette belle soupe d'artichaut.
Dans cette belle soupe d'artichaut, voilà. Ouais. Donc,
boutique de brioche.
L'aventure parisienne s'est arrêtée, mais le relais a été pris à Las Vegas, où il y a deux boutiques qui fonctionnent.
Ah oui.
Fonctionne plutôt bien. Mmh. Oui.
Donc, si je dois quand même résumer, vous êtes plus éclair que chou, Guy Savoie.
Alors, dans les choux, alors moi j'ai une affection particulière pour les chouquettes, mais alors il faut qu'elles aient cette dentelle de caramel
croustillante
pour qu'on se régale vraiment.
Eh bien, on continue à se régaler jusqu'à midi et demi avec Guy Savoie. On revient après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle avec une belle soupe de printemps, extraite du dernier livre de Guy Savoie. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous. Nous serons devant le château de Windsor dans une demi-heure où les Anglais viennent rendre un dernier hommage au prince Philippe. C'est là qu'il s'est éteint hier à l'âge de 99 ans. Toujours pas de date officielle pour ses obsèques, mais on sait déjà qu'il n'y aura pas de funérailles nationales. Nous rejoindrons sur place Théo Manval et nous reviendrons sur le destin si singulier du prince Philippe que les Britanniques pleurent depuis hier, celui que la reine Elisabeth appelait son roc. Nous serons avec Jean Descartes qui nous raconte cette vie dans l'ombre de la reine dans le podcast Au cœur de l'histoire d'Europe 1 Studio. Dans l'actualité encore, le début des vacances et pas de ruée dans les gares vu que nous sommes sous le régime de l'attestation avec motif impérieux pour tout déplacement de plus de 10 km. Et dans son train pour La Rochelle, Marion Gauthier a surtout croisé des parents qui emmènent les enfants chez les grands-parents pour les faire garder. Nous parlerons de la colère des maires qui trouvent un peu court le délai pour se prononcer sur le protocole sanitaire en vue des prochaines régionale et avant le débat cette semaine au Parlement. Autre colère, celle des motards qui s'opposent au contrôle technique qu'on pourrait leur imposer l'an prochain pour des raisons de sécurité. Opération escargot prévue près de Lille, notamment cet après-midi. L'actualité sportive avec un match qui pourrait être piège pour le PSG après sa performance en Ligue des Champions cette semaine, sa victoire face au Bayern. Victoire qui a peut-être laissé des traces dans les organismes. Les Parisiens qui sont toujours dans la course au titre en Ligue se déplacent en effet à Strasbourg cet après-midi. Hier soir, Lille a conforté sa place de leader de Ligue 1 avec une victoire à Metz 2-0. Autre match de la journée, Montpellier-Marseille à 21h. La météo avec un temps bien triste et pluvieux, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous reviendrons sur les bugs à répétition avec le retour de l'école à distance. Et puis plonger au cœur du fort de Saint-Cyr en région parisienne, où la Cinémathèque restaure depuis 12 ans, pensez-vous, le film culte d'Abel Gance, Napoléon.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
12 heures de minutes, je vous laisse en compagnie de Laurent Mariotte.
On m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bienvenue, hein, si vous venez de nous rejoindre à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors si vous avez loupé le début, vous retrouverez notre dossier consacré aux cuissons, entre autres, et puis à la poitrine de cochon aussi, en podcast sur europe1.fr. Guy Savoy est notre invité jusqu'à 12h30. Guy, on a parlé tout à l'heure de votre émerveillement devant les langues de chat de votre maman. Vous avez aussi connu des émois culinaires devant la télévision, on peut dire.
Devant la télévision,
oui. Vous voyez pas alors, où je veux venir. Alors je vais vous faire écouter un truc, tiens, pour vous mettre sur la voie.
C'est vraiment Oliver, non?
C'est ça?
Absolument.
Ah, les magies.
Absolument.
De Raymond Oliver.
Bah, déjà le mot magie, je crois qu'on n'insiste pas assez. Je crois que le fait de cuisiner, enfin de manger déjà, c'est quelque chose qu'on a tendance à banaliser. Voilà.
Donc, et se nourrir et manger ne sont pas la même chose. Hein.
Absolument.
Non, c'est pas du tout pareil.
Alors, seul l'homme d'esprit sait manger.
Exact. Oui, c'est ce que disait Brillat Savarin.
Absolument.
Vous aimez les soupes, hein, c'est pas un scoop. On le sait avec cette fameuse soupe d'artichaut et cette brioche bien beurrée qu'on peut tremper dedans. D'ailleurs, vous avez été le premier chef de la haute gastronomie, on va dire, à proposer vos recettes en version click and collect lors du confinement.
Sur la plateforme du Chiberta, oui. Près des Champs-Élysées, rue Arsène Houssaye, où là on a associé les recettes du Chiberta plus la soupe et quelques recettes du Quai de Conti, parce que comme c'est un restaurant qui est vraiment, on peut dire pignon sur rue, c'est beaucoup plus facile d'aller prendre les plats préparés que au 11 Quai de Conti, où il faut monter au premier étage et où il faut passer plusieurs barrières de sécurité.
Et vous êtes aussi un des premiers chefs à avoir autorisé les clients, avec cette belle brioche qui était sur le bord de l'assiette, à leur dire, mais allez-y, il faut faire trempette.
Saucer.
Ah, moi j'ai dit, tous les signes de gourmandise sont bien vus. Moi, lorsque j'arrive à une table et que je vois qu'on ne trempe pas la brioche, j'encourage bien sûr à le faire. Et si je vois qu'on sauce avec un morceau de pain, alors là j'applaudis.
Ben voilà, là on est heureux, ben, évidemment.
Bon, j'ai toujours défendu la gourmandise, mais parce que c'est un mot tellement, je dirais, qui est tellement associé au vocabulaire français et de notre art de vivre. La gourmandise, aussi bien pour les choux dont vous avez parlé, pour tout. On fait toutes nos préparations, quel que soit le métier, boulanger, charcutier, fromager, vigneron, c'est une ode à la gourmandise.
Et dire qu'on a voulu nous faire croire que c'était un vilain défaut.
Non, alors la gloutonnerie.
Oui.
Parce que Lionel Poilane, qui à l'époque s'était beaucoup impliqué pour justement enlever cette gourmandise des péchés capitaux. En fait, il voulait faire inscrire dans les péchés capitaux la gloutonnerie, mais au contraire, réévaluer réévaluer la gourmandise.
Mais il a bien raison, ouais. Il avait bien raison. Guy Savoy, vous venez de sortir une belle collection de livres consacrés aux soupes, aux éditions Herscher. Le premier, évidemment, On suit les saisons, est consacré aux soupes de printemps. Vous l'avez co-signé avec votre chef Alexis Voisenet, qui est là. Bonjour Alexis, soyez le bienvenu.
Bonjour. Bonjour, enchanté, merci à vous de votre invitation.
Voilà. Alors, vous êtes venu avec une belle soupe de saison,
petit pois.
Alexis. Mais... racontez-nous, alors, Guy, allez-y.
Qu'est-ce qu'il y a, petit pois. Alors, il y a une petite phrase à chaque soupe, et celle-ci, j'ai décidé de mettre la terre et la mer en petit calibre. Parce qu'on s'aperçoit que les petits pois ont pratiquement la même taille que les œufs de saumon, et que d'associer
le même
les œufs de saumon, les petits pois qui sont crus dans la soupe, bien sûr la soupe, pour faire la crème de petits pois, les petits pois sont bien sûr cuits, il y a un petit peu d'aneth, et surtout le pain grillé, parce que la soupe, bon, vous avez eu la gentillesse de parler de la soupe d'artichaut avec la brioche, je crois qu'une soupe seule peut manquer de consistance.
Pas les vôtres. Hein.
Donc il faut pas hésiter à côté de mettre soit du pain grillé, soit,
de la matière,
soit quelque chose de croquant, qu'on peut tremper ou pas, mais il faut avoir, ça participe à la complexité, justement. On entend croustiller le pain grillé, et je crois que c'est important d'avoir... Et chacun, à peu près, après, peut mettre ce qu'il veut autour. Hein, ça peut être
des jeux de texture.
Ça peut être de la taponade, ça peut être de l'encheuillade, on peut faire des petits morceaux de chou.
Vous êtes même venu avec les assiettes du restaurant, ou je me trompe ?
On est venu avec les assiettes de la soupe d'artichaut, voilà.
Elle est magnifique.
C'est très important de griller le pain, parce qu'on a vraiment ce jeu de texture entre cette soupe qui, évidemment, est liquide, et puis là, le croquant qui vient...
Et là, vous avez prévu...
Voilà, et je vous ai apporté... Alors, j'ai fait l'accord un peu sur le papier, parce qu'on m'avait parlé de la recette, mais je ne l'ai pas goûté. Et en fait, ça tombe pas si mal. Hein.
Non, mais je sais. Ouais. C'est vrai. Mais déjà, Voilà, je vais dire, le vin tout seul déjà était parfait. Donc.
Voilà, je vous ai sorti un Sauvignon de Touraine, hein, les poètes de Guillaume Sorbe. C'est un vin qui ne tombe pas dans les travers de certains Sauvignons qui, vous savez, sentent un peu le pipi de chat, comme on dit. Là, on n'est pas du tout dans ces arômes variétaux. On est dans quelque chose de végétal noble et en même temps d'agrumes. Et ça contrebalance très bien la soupe.
Alexis, vous qui travaillez avec Guy Savoie, nos auditeurs se posent la question. Quelques mots, les grandes étapes pour réussir cette soupe à la maison. On mettra la recette sur europe1.fr de toute façon.
Les grandes étapes, c'est l'étape fastidieuse, c'est écosser les petits pois. Ensuite, après, c'est que du plaisir et c'est très très simple. On va cuire avec une texture, pour obtenir en tout cas une texture très fondante des petits pois, pour ensuite les mixer très longtemps pour avoir justement ces textures lisses de soupe.
Oui,
et ensuite,
lisse,
on va faire cette salade avec les zestes de citron, le jus de citron, les œufs de saumon, les petits pois crus qui vont commencer une pré-cuisson. Et on aura ce jeu de texture avec les petits pois croquants, le côté juicy et salin des
oui,
œufs de saumon.
Oui, c'est ça, oui.
Et puis cette onctuosité de la soupe avec le pain grillé qui nous envole.
C'est ça, il en parle bien, hein, c'est une harmonie de texture tout ça. Hein.
Heureusement. S'il veut reprendre à la réouverture.
Quel genre de chef est Guy Savoie ? Racontez-nous, Alexis, vous qui le côtoyez au quotidien.
Je dirais que c'est un coach sportif ou alors un capitaine d'équipe.
Et ben voilà, on parlera de rugby tout à l'heure. Merci Alexis pour cette belle soupe. Alors vous avez peut-être, chers auditeurs, vu passer ces images impressionnantes, hein, des chaufferettes dans les vignobles. Le grand froid met la vigne en danger. Eh bien Olivier, vous allez revenir sur cet épisode dans les 2 minutes du vin. On revient à table avec Guy Savoie. Bon samedi midi, hein, sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus, hein, si vous nous rejoignez. Nous revoilà avec notre invité, le chef Guy Savoie, et on se régale avec cette soupe de petits pois. Hein, je le redis, une soupe mixée de petits pois, mais avec à l'intérieur des petits pois crus marinés avec des zestes d'agrumes et puis des œufs de saumon, comme le disait Alexis, pour le petit côté juicy et salin. Et ça marche super bien, ça.
Absolument. Hein.
Belle création, on la retrouve dans votre livre qui s'appelle Soupe aux éditions Herscher. Cette soupe, et beaucoup de soupes avec de la matière, hein, je le disais,
Guy
Savoie.
Absolument, ces soupes peuvent être en fait une entrée, mais pour certaines, on peut même les avoir en plat.
En plat unique.
Les asperges blanches avec le haddock, ça peut être un plat. Hein.
Le soir, c'est magnifique.
C'est un plat de printemps parfait. Ouais.
C'est un collectif, hein, une brigade de cuisine.
Absolument, c'est une équipe en fait. Et je me suis aperçu, ça je l'ai appris au rugby, c'est avec des personnalités très différentes qu'on fait une équipe cohérente.
Et oui, et puis la qualité des échanges est déterminante aussi, comme au rugby.
Absolument, absolument. Bon, ben, c'est vrai qu'Alexis fait partie des piliers de la maison, et c'est vrai que c'est un échange permanent. Quoi. On peut pas avancer seul, ça c'est évident, et d'avancer avec des jeunes qui ont entre 22 et 28 ans. Pour moi, c'est simplement déjà la garantie de rester jeune, quoi. Parce que
ça fait du bien, évidemment.
J'ai l'impression de me mettre, comme vous dites, à ce moment-là, on devient la même bande.
C'est ça.
J'ai eu la chance de venir une ou deux fois dans vos cuisines et il règne une espèce d'atmosphère calme et paisible. Or, les cuisines ont parfois la réputation d'être des endroits, les derniers endroits d'enfer sur Terre, avec quelques chefs réputés pour être très colériques. On ne vous voit pas hurler sur vos cuisiniers.
Non, mais je l'ai fait à mes débuts, parce que bon, il y a des angoisses, il y a des angoisses d'échéance de fin de mois, il y a des choses qui nous mettent parfois dans des états pas normales. Mais là, aujourd'hui, j'ai compris, en fait. Déjà, on a la chance d'avoir des cuisines qui ont des fenêtres, qui sont très spacieuses, donc on n'a pas cette promiscuité qui fait des fois qui dérange. Et puis, je me suis aperçu que, justement, en gardant cette sérénité, on n'affole pas les gens, on n'affole pas les cuisiniers et les cuisinières. Ça se fait dans une bonne atmosphère, et il n'y a pas de mauvais stress, quoi. Il y a le stress de l'effort, hein, qui doit et de la réussite des préparations, mais il y a pas de mauvaise stress qui ensauvage les équipiers.
Quoi. Et ça fait du bien au collectif. Alors quelqu'un qui, comme vous, accorde beaucoup d'importance au collectif et à la qualité des échanges, c'est Yves Candebord, qu'on retrouve régulièrement à cette table.
Ouais.
Et il est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour tout le monde, bonjour Guy.
Bonjour Yves.
Yves, voilà. Capitaine d'un grand collectif au service du rugby avec les grands cuisiniers français. Alors racontez-nous
La France organise la Coupe du Monde de rugby 2023.
Absolument.
Et Yves est le capitaine de l'équipe des cuisiniers qui a été faite pour justement soutenir dans la
version art de vivre à la française, cette Coupe du Monde, qui, selon les vœux des dirigeants, va être la plus belle Coupe du Monde du monde. Donc, mais non, mais Yves, il y a d'autres histoires.
Alors, racontez-nous, Yves, quand
on a joué au rugby ensemble, hein, mon cher Yves.
Ah oui, mais il faut savoir que bon, là, c'est vrai que je suis capitaine du 15 de la gastronomie qui va représenter le rugby français en 2023. Mais il faut savoir que Guy a été mon capitaine sur le terrain. Parce que Guy avait créé un 15 de la cuisine.
15 à table, ça s'appelait.
Quels sont les chefs qui seront avec vous dans ce beau collectif, Yves Courdebord?
Bon, ça part de. Il y a un peu toutes les générations et surtout, il y a tout le territoire français. Ça part de Pierre Auger qui est à Béziers, de Eric Hospital, le charcutier, qui est à Biarritz. Il y a bien sûr des grands noms avec nous. Il y a
Alexandre Gauthier aussi.
Alexandre Gauthier, Alain Dutournier, Jean-François Sapiège, Gilles Goujon.
Et il y a même des filles.
Bien sûr qu'il y a des filles. Il y a Anne-Sophie Pic qui fait partie des équipes. Il y a Amandine Chéniaud. Non, il y a un très beau choix avec des gens qui ont chacun des personnalités, des gens très différents, mais comme au rugby, voilà. Tous les styles de restauration qu'on peut trouver sur le territoire français. J'ai une question quand même à poser à Guy. Voilà, je voudrais que Guy nous fasse une petite avant-première là, pour les bons vivants. Guy, peux-tu nous dire quel plat tu es capable de créer ou que tu vas créer pour la Coupe du Monde de rugby en 2023? Un plat, bien sûr, qui représente ta cuisine et aussi qui représente quand même l'esprit du rugby.
Bon, écoute, moi, je vais pas être original, je vais citer ma soupe d'artichaut déjà parce qu'il y a du noir, hein, en hommage au All Black.
Ah non, s'il te plaît.
Il y a l'artichaut pour l'Écosse, il y a le parmesan pour l'Italie.
C'est beau,
et,
ça.
Et puis la brioche pour la gourmandise. Bon, mais d'ici là, non. Mais je vais réfléchir parce que là, tu me prends un peu au dépourvu. Donc, je vais réfléchir, mon cher Yves. Et puis, j'oublie pas que t'es mon capitaine, donc je suis aux ordres.
Bon. Merci Yves Courdebord et à la semaine prochaine ici au studio Coluche à Europe 1. Alors, c'est l'heure des 2 minutes du vin d'Olivier Pouls. Le vin, eh bien, a vécu un sacré préjudice, hein, le vignoble, un sacré préjudice cette semaine avec des températures hivernales. On va revenir, cher Olivier, sur le gel qui a frappé une grande partie du vignoble. Si c'est pratiquement tout le vignoble français, on peut presque
et
dire.
Le vin et les arbres fruitiers.
Absolument, les arboriculteurs, les maraichers aussi ont eu de grosses difficultés, vous avez raison.
Ce sont 2 minutes du vin qui sont vraiment pas drôles cette semaine. Et bon, c'est vrai que là, il y a 3 nuits qui ont été absolument dévastatrices pour la quasi-totalité du vignoble français. Je pense qu'aucune région n'y a échappé. De la Bourgogne au Bordelais, j'ai entendu ce matin des nouvelles de vignerons du Jura qui étaient catastrophés, qui ont été totalement ravagés, la vallée de la Loire bien sûr, même la vallée du Rhône. Enfin, c'est vraiment la Champagne, un épisode terrible avec des pertes qui vont à certains endroits jusqu'à 100%. C'est-à-dire que il y a des vignerons qui n'iront pas en vendange au mois de septembre. Tout a été grillé.
On a vu donc les images de ces chaufferettes, hein, de ces braseros qui sont là pour réchauffer les pieds de vigne. Ça marche un petit peu par endroit, ça, cette technique?
Disons que ça permet de récupérer peut-être 1 degré ou 1,5 degré. Donc si on gèle à -1,5, -2, on peut peut-être sauver une partie de la récolte. Malheureusement, dans beaucoup d'endroits, le gel a tapé beaucoup plus fort. Vous l'avez dit, -4, -5, -10, -11 dans certaines régions.
Terrible.
À -11 degrés, on ne peut rien faire. Malheureusement, c'est la nature qui est la plus forte. Il y a de telles masses d'air et un tel froid que c'est pas ces quelques chaufferettes. Ouais. Même si on en met 300 par hectare, c'est quand même quelque chose qui peut y faire quelque chose.
Est-ce que les dommages vont être sur plusieurs années, ou on le sait déjà ou pas?
Pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile, mais souvent, effectivement, on peut le payer sur 2 ou 3 ans, parce que ces bourgeons qui ont été grillés, d'abord, il va falloir retailler complètement la vigne et espérer que, finalement, même les pieds eux-mêmes n'aient pas été endommagés. Donc ça, on va le savoir probablement dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
Alors, Julien de Normandie vient hier de déclarer l'état de calamité agricole pour les vignerons. Donc, il va y avoir des aides, il va y avoir des aides notamment fiscales. Comment, nous, on peut aider les vignerons de notre côté consommateur là?
À part en achetant du vin et en le buvant, ce qu'on va essayer de faire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, malheureusement. On peut espérer que les banquiers se montreront les plus compréhensifs possibles. Peu de ces vignerons sont malheureusement assurés. Ce que je voudrais juste dire rapidement, c'est que Un épisode de gel au mois d'avril, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Non. Il y en a toujours eu. On est le 8 avril, cette semaine, il a fait moins 5, moins 10. C'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel depuis quelques années, c'est l'état d'avancement de la vigne à cette période de l'année, parce qu'on n'a plus d'hiver. On a des hivers qui sont extrêmement doux. Et donc, on avait une vigne qui, pour un début d'avril, déjà extrêmement sortie. Il y a 30 ans, à cette période, ce gel n'aurait pas posé le moindre problème. C'est en amont que ça se passe.
Exactement. Ben, oui. On vous mettra des références de vignerons, évidemment, sur europe1.fr. Ne bougez pas, nous sommes avec Guy Savoie jusqu'à midi et demi. Et c'est bientôt l'heure de se réchauffer et de passer sur le grill des bons vivants, cher Guy. Vous êtes prêts ?
Allons-y.
Ça va saisir.
Allons-y.
À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Il la connaît par cœur, cette phrase. Et comment ?
Heureusement.
Elle est écrite au néon rouge qui vous accueille quand vous entrez dans son restaurant Quai Conti. C'est Guy Savoie, notre invité, jusqu'à midi et demi. C'est vrai que pour faire de l'art avec des produits, il faut des produits de qualité, Guy Savoie.
Il faut des produits de qualité. J'ai voulu, à travers cette phrase ou cette définition de la cuisine, montrer quand même la différence qu'il y avait entre l'instantanéité de la préparation, de la magie, et tout ce qui est en amont. Et ce que vivent actuellement la plupart des vignerons et des producteurs de fruits, nous montre combien ce qui est en amont est important. Nous, lorsque les produits sont dans la cuisine, je dis c'est facile. Le rôle du cuisinier, c'est de donner une deuxième vie à chaque produit.
Et vous dites actuellement que notre art de vivre à la française, il est menacé avec cette crise sanitaire, avec ces épisodes climatiques terribles aussi.
Toutes ces calamités, en fait, n'attaquent pas seulement l'art de vivre à la française, je crois qu'il attaque notre âme, quoi, parce qu'on se retrouve sans théâtre, sans concert. C'est bien plus grave que l'art de vivre. C'est toutes les nourritures de l'âme qui sont...
Une façon d'être.
Qui sont actuellement...
L'essentiel, voilà, le fameux essentiel.
L'essentiel. Ouais.
Les salles de restaurant sont fermées. Alors, vous résistez avec votre offre de click and collect, Guy Savoie. Vous avez 6 restaurants. Comment vous imaginez la reprise ? Est-ce que vous cogitez déjà des plats que vous allez proposer à vos invités et à vos clients ?
Alors, il y a 15 jours, j'ai remis pendant 3 jours la cuisine en route, comme ça, simplement, avec Alexis, avec Laurent, avec les principaux, pendant 3 jours. Mais c'était surtout pour parler, bien sûr, pour réfléchir. Mais bon, la réflexion sur les nouveaux plats, elle est permanente, elle n'est pas liée à la crise sanitaire. On va bien sûr rouvrir avec...
Non, mais beaucoup de chefs disent qu'ils ont, entre guillemets, profité de cette cassure de rythme pour repenser autrement leur métier, leur approche des plats, pour aller voir des producteurs et pour gamberger de nouvelles recettes sur un rythme un petit peu moins intense que d'habitude.
Alors, bien sûr, mais on est toujours en mouvement. Là, je dirais, c'est pas un mouvement normal et je crois qu'on a tous besoin de ces services, hein, du déjeuner, du dîner, pour être en état de...
Du rythme, oui.
Pour avoir ce rythme, pour être en état d'évolution. Et puis je crois qu'on a tous envie d'en découdre, quoi, là, maintenant, de reprendre cette vie normale, d'avoir ces bonnes sensations tous ensemble, de voir des convives heureux, et c'est de ça dont on a besoin.
Guy Savoie, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Attention, ça chauffe. Quel est le goût de votre enfance, Guy Savoie ?
Alors, les goûts de mon enfance, ce sont les tartes et les gratins de ma mère. Pourquoi ? Parce qu'elle avait l'art de porter la cuisson au maximum. C'est-à-dire, les gratins, ils avaient ce petit liseré marron autour.
Eh oui.
Les tartes débordaient de bord. Elle osait aller où la plupart des cuisinières et cuisiniers n'osent pas aller.
Il faut oser en cuisine.
5 minutes avant, on n'aurait pas eu les mêmes sensations, et 5 minutes après, ça aurait été cramé. Elle avait l'art de sentir le juste moment.
Votre plus beau repas ?
Celui que je vais faire demain, je pense.
L'avenir. Votre pire repas ?
Alors, j'ai pas de pire repas, parce que
Non mais mauvais souvenir, à être invité quelque part, quelqu'un qui rate un plat, qui veut en faire trop.
Si, j'ai une petite anecdote.
Ah.
J'ai une amie alsacienne qui avait mis les petits plats dans les grands, et elle avait préparé un magnifique cendre, mais qui était très beau, quoi. Et puis elle avait sorti un magnifique guéridon qu'elle avait posé juste à côté de la table. Et quand elle arrive avec son plat, le guéridon s'est replié. Et la pauvre. Alors moi j'ai ri parce que
mais j'ai senti que de rire, c'était encore pire.
Oui, c'est ça.
J'ai essayé de tout faire pour la rassurer, qu'en fait, on était entre amis et que ça n'avait aucun problème, quoi. Enfin, c'était pas... C'était pas grave.
Le moment est plus fort.
Vous avez
que,
commandé des pizzas.
On a bu.
Voilà. Quel est le plat que vous auriez aimé inventer, Guy Savoy?
Ah, le millefeuille. Moi, c'est le millefeuille. Je trouve que c'est ce plat qui est à la fois un mélange de technique et de sensibilité. Parce que très souvent, on dit des bêtises autour du millefeuille. On dit, par exemple, la détrempe et le beurre, même température. Pas du tout. Même consistance. Surtout même consistance.
Oui, la détrempe, c'est le mélange de farine et d'eau.
Et d'eau et de, voilà. D'un peu de sel. Et de, voilà. Et de. Voilà, la même consistance. Et puis surtout, ce plat, ce dessert, lorsqu'il est parfaitement réalisé, avant de se déguster, il s'écoute. Et ça.
Crac.
La cuillère qui démarre sur le haut du millefeuille, vous voyez les feuilles s'envoler. Le son.
Le croustillant.
Le son du croustillant.
Ben c'est magnifique.
Et après,
ça.
Vous arrivez sur la crème. Voilà. C'est...
What else, comme dirait l'autre.
What else.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Guy Savoy?
C'est très hétéroclite. J'avais pensé à Charles Quint pour son expérience. Marilyn Monroe pour sa légèreté.
Ah, bien.
Superman.
Ah, joli.
En tant que mytho, il nous aurait raconté des histoires formidables.
C'est bien, bon, c'est hétéroclite.
Je sais pas, Bourvil pour la chanson à la fin du repas. Et puis une femme qui n'est pas assez connue, à mon avis, pour ce qu'elle a fait, c'est Geneviève de Galard, qui était l'infirmière mythique dans la cuvette de Dien Bien Phu. Cette femme qui a fait des choses remarquables et qui, à mon avis, n'est pas assez reconnue.
Voilà. Joli casting. Et pour qui avez-vous été le plus fier de cuisiner, Guy Savoy?
Je crois que c'est pour ma mère, tout simplement, parce que pour plein de raisons, déjà, c'était de lui dire assieds-toi, laisse-moi faire. Quoi.
Et pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
Que ce mot soit définitivement rayé du vocabulaire de cette planète.
Qu'on ait plus faim, vous voulez dire.
Qu'on ait plus faim.
Et voilà, c'est ça. Que tout le monde puisse manger à sa faim.
À sa faim.
Merci,
et
Guy Savoy.
Et avec plaisir.
Et avec plaisir.
Et avec plaisir, parce que la faim, se rassasier ne suffit pas si ce n'est pas associé au plaisir.
Merci, Guy Savoy.
Merci à vous.
D'être
Merci.
Venu à la table des bons vivants. Je rappelle votre livre, Soupe de printemps, c'est le premier. Il y en aura plusieurs, évidemment, pour chaque saison, aux éditions Herscher. On a mangé ces délicieuses soupes de petits pois avec des petits pois cuits juste à la minute avec la marinade et avec ces œufs de saumon magnifiques.
Et bu ce vin magnifique.
Il est beau, ce vin, Olivier Rousse. Redites-nous les références.
Alors, je vais vous redire ce que c'est. Il s'agit du S des poètes et c'est un vin, c'est un Sauvignon de Touraine signé Guillaume Sorbe, c'est vrai que c'était remarquable.
Et on pense à tous les vignerons qui, cette année, vivent une année terrible.
Exactement, viens d'en parler. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Lucie Lescourot à la rédaction en chef, Julien Matt, Alice Foss, Marion Sauveur à la rédaction. Merci Julien Blanc à la réalisation, Agnès Vaudin à la programmation. Merci Guy Savoy
Merci
d'être
à vous,
venu.
Écoutez, c'est toujours un plaisir. Je vous écoute avec gourmandise, et me retrouver là, c'est un moment d'émotion.
Votre ronde serviette est gravée. Vous retrouverez le podcast, évidemment, sur europe1.fr. Bon week-end, faites le marché et la cuisine. Dans un instant, c'est Europe Midi avec Fabienne Lemoyle. À samedi sur Europe 1.